3 janvier 1912. Thiers. À 6h du matin, la place de l'église est vide. Il est encore tôt dans ce petit village proche de Choisy-le-Roi. Louis Harfeux, employé d'une fabrique de bibelots, accélère le pas. Il ne veut pas être en retard. Pourtant, quand il passe devant la maison d'Hippolyte Moreau, un rentier de 91 ans, Harfeux s'arrête. D'ordinaire, sa mère, Louise, domestique de M. Moreau, est levée à cette heure-là. L'ouvrier frappe à la porte. Pas de réponse. Inquiet, il prévient le garde champêtre ainsi qu'un voisin serrurier. Les trois hommes pénètrent dans la maison qui est silencieuse. À pas de loup, ils montent à l'étage où se trouvent les chambres. Poussant une porte, Harfeux découvre le corps sans vie d'Hippolyte Moreau. Le vieil homme a le crâne défoncé par un coup de marteau et la poitrine percée de coups de poignard. Dans la chambre voisine, Louise Harfeux, 72 ans, est morte, tuée d'un coup dans la tempe. Elle a le nez brisé et ses poignets et chevilles sont attachés avec une corde.
Janvier 1912, rue du Temple. Avec le fric du braquage, Calmin, Garnier et Bonneau se paient un repas chaud dans une brasserie. Bonneau n'a rien avalé depuis 3 jours. Les deux vieux à Thiers, c'est pas nous, dit Calmin. Parole d'honneur. Jules Bonneau hausse les épaules. Les trois bandits jettent un regard aux tables voisines. Le boui-boui est bondé. Personne ne fait attention à eux. Ils doivent trouver un nouveau coup. Et vite, ils sont à sec.
7 janvier 1912, Paris, siège de la Sûreté. Les constatations d'Alphonse Bertillon ont permis d'établir que les assassins de Thiers ont escaladé le mur entourant la propriété d'Hippolyte Moreau. Ils sont entrés par la porte arrière de la maison qui n'était pas verrouillée. Les voleurs se sont acharnés sur leurs victimes, puis ont défoncé un secrétaire dans lequel se trouvait 20 000 francs en valeur et en pièces d'or de 100 et 50 francs, dont le rentier faisait collection. Selon des témoins, 2 individus ont été aperçus dans le village, 3 jours avant le cambriolage.
Bonneau s'est mis au vert dans le sud de la France. Il a besoin de souffler, le temps de préparer un nouveau braquage. De toute façon, l'air parisien est devenu malsain. Il en a marre de crécher dans des meublés pourris de la porte de Clignancourt. Le seul endroit où il est en sécurité, c'est quand il patauge dans la misère. Dans les bidonvilles installés aux portes de Paris. Là où les flics n'osent pas s'aventurer tout seuls. Après 3 semaines à écumer les Cévennes, Jules Bonneau a trouvé ce qu'il cherchait. Il va voler la caisse de la mine de la Vernarède, au nord d'Alès. En fin de mois, il y a 60 000 francs dans le coffre où est rangée la paix des mineurs. Il remonte à Paris.
« 14 janvier 1912. Garches. Marius Medge, le commissaire Louis-François Join, directeur adjoint de la Sûreté, a fait le déplacement dans cette bourgade de l'ouest de Paris. Veuillez nous suivre. » 2 policiers empoignent Marius Medge par les bras et le poussent dans un fourgon cellulaire. « Je n'ai rien fait, je suis honnête. Je travaille comme cuisinier. » Marius Medge, dit le pâtissier, dit la cuistance, est soupçonné d'avoir hébergé Octave Garnier et Édouard Caroui, 2 des braqueurs de la rue Ordinaire. Join et le juge Gilbert, en charge de l'instruction, savent que le jeune cuistot n'a pas pris part au braquage de la Société Générale. Seulement, depuis le mois de décembre, l'enquête patine. Le public s'impatiente et la presse se demande ce que fait la police. Join et Gilbert espèrent qu'en mettant la pression sur Medge, celui-ci les conduira à Karoui. Les deux lascars se connaissent bien. Ils sont recherchés en Belgique pour le cambriolage d'une villa en janvier 1911. Mais le cuisinier Medge refuse de se mettre à table.
27 février 1912, 1h30 du matin. Bono a repéré la bagnole dans un garage de l'avenue de la République à Saint-Mandé. Un coupé gris Delaunay-Belleville. Une caisse puissante et solide. Fracturer la porte est un jeu d'enfant. Calmin et Garnier poussent la berline à la main. Bono tient le volant. Au bout de la rue, il enclenche une vitesse. Le moteur démarre. Comme à son habitude, Bono roule à tombeau ouvert. Bien qu'il fasse nuit et que la route qu'il a prise à la sortie sud de Paris ne soit pas éclairée. À l'approche de Montereau, Bono perd le contrôle du coupé. La voiture zigzague, la roue avant mord le bas-côté. Bono redresse et parvient à stabiliser la trajectoire. Mais il est obligé de s'arrêter. L'essieu est faussé. Au lever du jour, les trois bandits se présentent chez un garagiste. Le gars est méfiant. Il les regarde de travers. À force d'insister, il persuade le garagiste de réparer le coupé. « Ce n'est que du provisoire », prévient-il. « Faudrait faire consolider ça. » Bono remonte derrière le volant. Retour à Paris. La caisse ne tiendra pas jusqu'à Alès.
« 27 février 1912. Paris, 20h. L'agent François Garnier, de la brigade parisienne des voitures, est en faction place du Havre, devant la gare Saint-Lazare. Un coupé gris descend à toute vitesse la rue d'Amsterdam, manquant de renverser plusieurs passants qui se jettent sur le trottoir. Le coupé est obligé de piler en catastrophe pour éviter d'emboutir un autobus au milieu du carrefour. Le chauffeur de la voiture folle, le conducteur de bus se met à s'insulter copieusement. Attiré par les cris, l'agent Garnier s'approche du coupé et ordonne au chauffeur de se garer afin de procéder à une vérification d'identité.
Les mains crispées sur le volant, Bono dévisage l'agent de police. Un regard a suffi. Il en est certain. Ce sale flic l'a reconnu. Bono enclenche la marche avant et appuie sur l'accélérateur. Avant que Bono ait le temps de replacer la voiture dans la circulation, l'agent saute sur le marchepied et l'empoigne par l'épaule pour l'obliger à s'arrêter. Calmin, assis sur le siège passager, sort son Browning et tire trois fois sur le flic. L'agent tombe à la renverse et roule au milieu de la chaussée.
Deux policiers qui patrouillent au bout de la rue Saint-Lazare entendent les coups de feu. Ils arrêtent un véhicule conduit par un jeune ingénieur et sautent dans la voiture, ordonnant au conducteur de prendre le coupé gris en chasse. L'ingénieur aperçoit le coupé qui tourne dans le boulevard Haussmann. Le jeune conducteur tente de rester au contact des fuyards, mais devant le printemps, une passante s'engage sur la chaussée. Il ne peut l'éviter.
Bono vire dans la rue Tronchet, direction la Madeleine. Dans son rétroviseur, il aperçoit un militaire monté sur un vélo qui pédale comme un forcené pour le rattraper. Bono vire dans la rue Royale et déboule sur la place de la Concorde. D'un coup de volant, il tourne sur les Champs-Élysées. L'avenue est large et toute droite. Il écrase l'accélérateur. Dans son rétroviseur, le soldat à vélo disparaît. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
« 28 février 1912. Depuis plusieurs jours, le commissaire Join et ses hommes ont pris en filature un certain Eugène Dieudonné, militant anarchiste et relation connue de Marius Medge et d'Octave Garnier. Les policiers ont découvert que Dieudonné vit dans un meublé au 47 rue Nollet, dans le quartier des Batignolles. Et vers 14h, Dieudonné descend de son garni sans se méfier. Dès qu'il franchit la porte de l'immeuble, deux inspecteurs l'empoignent et lui bloquent les bras dans le dos. Un troisième fouille ses poches et récupère deux Browning chargés de 8 balles chacun. « Emmenez-le !» ordonne Join. La perquisition chez Dieudonné permet de saisir plusieurs pistolets provenant du cambriolage d'un magasin d'armes rue Lafayette. C'est de ce magasin que provenaient les pistolets employés rue Ordener. Les policiers mettent aussi la main sur une lettre datée de la Vernarède, localité où Bono et ses complices envisageaient d'attaquer la mine pour s'emparer de la paye des ouvriers.
« 29 février 1912, Pontoise. 3h du matin. À l'arrache, ils sont obligés de monter un autre coup, chez un notaire. À l'aide de cordes, Bono, Calmin et Garnier ont réussi à traîner le coffre-fort jusqu'au milieu de l'étude. Mais cette saleté d'engin est tellement lourd qu'ils n'arrivent plus à le faire avancer. « Chut ! Fermez-la !» ordonne Bono. Calmin et Garnier se fichent sur place. « Bon Dieu, on a réveillé le bourgeois !» murmure Garnier. De l'autre côté de la cloison, ils entendent le notaire qui se met à hurler comme un damné. Le gars ouvre la fenêtre. Le notaire tire des coups de feu à l'extérieur pour donner l'alerte. « Allez, on dégarde ici !» grogne Bono. « On laisse le coffre et le fric, tant pis !» Les trois bandits surgissent hors de l'étude et sautent dans le coupé garé le long du trottoir. Bono roule jusqu'à Saint-Ouen. Il gare la voiture près du cimetière. Il saisit un bidon d'essence et asperge le véhicule. Dans la lueur des flammes, les trois malfrats s'enfuient à pied.
Les enquêtes pour mettre la main sur Bono et sa bande sont au point mort. Le préfet Louis Lépine tente alors un coup de communication. En concertation avec Xavier Guichard, le nouveau chef de la sûreté, Lépine fait fuiter dans la presse que les tueurs de Thiers sont Marius Medge et Édouard Caroui. Medge est enfermé à la santé et une prime de 125 000 francs est offerte pour retrouver Caroui, également impliqué dans le braquage de la Société Générale. Ensuite, le 15 mars, Lépine se présente devant le conseil municipal de Paris afin de répondre aux critiques de l'opposition politique. Nous disposons de 7000 agents de police, soit environ 300 agents par arrondissement dans une ville qui compte 4 millions d'habitants avec sa banlieue, explique Lépine. Nous avons besoin de 1800 agents et de 200 inspecteurs supplémentaires. Le conseil municipal vote les crédits pour les nouveaux effectifs.
Mars 1912, quartier de Clignancourt. La misère, ça commence par l'odeur. Cette odeur qui colle à vos habits, à vos cheveux et qui s'incruste dans votre peau. Vous avez beau vous frotter au savon, elle ne part jamais tout à fait. Elle reste accrochée comme la malchance s'accroche à vos basques et vous poursuit toute votre vie. Assis sur le lit de la chambre qu'il partage avec Garnier au dernier étage d'un immeuble lépreux, Jules Bono écoute les bruits de la rue. Les enfants qui se disputent et jouent à saute-ruisseau au milieu des rats, des ordures et des déjections qu'on balance avec un seau. Bono et Garnier ont récupéré 500 francs sur les titres volés de la Société Générale. Bono a chargé un certain David Belloni d'écouler les petits bouts de papier, mais personne n'en veut. 220 000 francs de titres et ils en tirent 500 francs. Chaîne de vie, va. Dépité, Garnier s'assoit devant la table bancale de la chambre. Armé d'une feuille et d'un crayon, il se met à écrire.
« 21 mars 1912, Paris. Deux jours plus tard, Xavier Guichard reçoit la lettre de Garnier. Le bandit y parle de l'attaque de la rue Ardenner. Dieudonné est innocent du crime pour lequel il a été arrêté et enfermé. Moi seul suis coupable du crime que j'ai commis. Je sais que cela aura une fin dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont la société dispose et moi. Je sais que je serai vaincu. Mais j'espère bien faire payer cher votre victoire. » Garnier a ajouté ses empreintes digitales au bas de la lettre.
Jules Bonneau rédige lui aussi un courrier qu'il adresse au journal Le Petit Parisien. Au fond de lui, il sait que sa fin est proche. A-t-il peur de mourir? Même pas. Il y a quelque chose d'inévitable dans l'existence qu'il mène. Message au juge Gilbert et au commissaire Guichard. Quel plaisir j'éprouverai quand je pourrai vous rencontrer en brûlant les dernières cartouches. J'avoue que je serai vaincu, mais vous êtes de rudes maladroits.